Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Très, très hâte de parler avec notre collègue Luc Laliberté parce que ça brasse aux États-Unis. Oui. Et souvent, lorsqu'on parle à Luc, on a un bon menu. Là. T'sais, on a 3, 4, 5, 6 éléments.
Pas.
Mais là, il y en a deux, mais c'est deux gros qui méritent... deux grosses problématiques qui méritent qu'on s'y attende. Comment ça va, Luc?
Oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi.
Yes.
Oui, ben ça va bien. Puis écoute, ça va mieux que les gens de Minneapolis. C'est assez incroyable ce qui se passe au Minnesota suite au... J'ai envie d'être politically incorrect et de dire suite au meurtre de George Floyd, ce citoyen noir qui était carrément étouffé par un policier. La situation qui est carrément en train de... Ben pas carrément, elle a carrément dégénéré. On voit les images, ouais. Luc. C'est l'apocalypse. Il y a des feux partout, le pillage. C'est pas beau ce qui se passe là. En ce moment-là.
Écoute, on a droit à, et c'est toujours important d'être nuancé quand on couvre ça. C'est particulièrement spectaculaire et c'est regrettable, bien entendu. C'est condamnable ce qui se passe actuellement. Mais c'est une manifestation supplémentaire d'un problème qu'on tarde à confronter ou qu'on confronte mal. Les policiers, une fois de plus, puis dans ce cas-ci, il semble effectivement que les officiers se soient comportés là, de façon tout à fait honteuse, mais moi, je trouve qu'on remet de plus en plus une série de problèmes politiques, économiques et sociaux entre les mains des policiers. C'est-à-dire qu'on les envoie auprès de communautés noires. Dans certains cas, on les encadre du mieux possible. Il y a des formations qui sont accordées, mais on les envoie patrouiller puis procéder à des arrestations dans des milieux qui sont aux prises avec une misère qu'on envisage peu ou pas ici, même s'il y en a au Québec et au Canada. Donc, les policiers sont comme la dernière ligne. Ils sont au front pour régler des problèmes qu'on devrait attaquer ailleurs. Et dans certains cas, ça semble être le cas au Minnesota, ben, il y a au travers de tout ça des dérapages importants et dans certains cas des pratiques racistes. Donc on verra. Hein, on a congédié 4 policiers déjà. Les images qui ont été filmées de cet officier qui porte un genou là, pendant 8 minutes de temps sur la nuque d'un individu qui est déjà menotté au sol, ça va à l'encontre des pratiques de la police de Minneapolis. Là, c'est très clair dans leur encadrement, dans leurs règles. On ne recourt à ça que si notre vie est en danger et ça semble pas être le cas. Maintenant, on a que cette vidéo-là qui est affligeante, qui est incriminante, mais on a que celle-là. Donc, réservons-nous.
C'est ça, parce que là, exactement. Et je voulais absolument qu'on fasse cette nuance-là parce que
voilà.
Ça semble tellement évident sur cette vidéo-là, mais il y a eu des occasions là où les médias, on a dû s'amender parce que c'est nous qui commentons sur ce qui est soumis sur la place publique. Tu sais, je pense, hein, je sais pas, Maud, si tu te souviens, son nom, l'acteur américain là, qui avait dit qu'il avait été l'objet d'une attaque raciste.
Jesse Smollett,
voilà. Ouais. Et finalement, on avait appris que c'est lui qui avait orchestré tout ça. Donc, même si ça semble évident, faut faire attention. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de George Floyd, de ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des éléments qui tendent à soulever des questionnements? Parce que j'ai entendu parler de caméras de surveillance qui, elles aussi, démontreraient qu'il n'était pas nécessairement agité ou violent ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire, Luc?
Ben écoute, d'abord, l'homme en question, mais je reviendrai, je veux rattacher ça à ce qui m'apparaît être la situation d'ensemble la plus importante à déplorer, mais ce gars-là mesure 6 pieds 7. Et c'est un sportif là, qui a obtenu des bourses. Il performait au football, entre autres choses. Donc, c'est un colosse qui a déjà eu des problèmes avec la justice. Est-ce que le fait d'avoir des problèmes avec la justice dans un passé plus ou moins récent, ça justifie ce que le policier a fait? Bien sûr que non. Mais
André Boisclair a déjà eu des problèmes avec la justice, puis il n'y a pas personne qui a mis un genou dans le cou tantôt, là.
Non, voilà. Donc c'est. Mais quand on procède à l'arrestation dans un quartier difficile, là on voit dans ce cas-ci se manifester une question carrément de profilage. D'ailleurs, en passant, là, quand on parle de profilage, puis les gens se disent, ben est-ce qu'on exagère dans les médias. Ce matin, là, on a évacué 2 équipes de CNN qui étaient sur le terrain. Et il y a une différence remarquable entre la façon dont on s'est adressé à l'équipe qui était dirigée par un blanc et l'autre qui était dirigée par un hispanophone. Donc, même dans les interventions policières, pour contrôler l'accès des médias ou tenter de le contrôler, il y a un journaliste blanc, finalement, qu'on va laisser faire son travail alors que l'hispanophone est évacué, puis de façon plutôt cavalière.
Ben, ils ont été arrêtés carrément.
Il a fallu une intervention puis des excuses de la part du gouverneur de l'État pour dire, écoutez, on a commis une erreur dans ce dossier-là.
Mais Luc, je t'invite à garder en tête ton propos parce que je veux qu'on écoute, on a fait un petit montage audio de ce qui s'est passé aux petites heures du matin alors que le journaliste de CNN a été arrêté live. Voilà. Si vous l'avez pas vu ou entendu, c'est un moment de télé absolument bizarre. Personne n'a jamais vu rien de tel.
Non, c'est sûr.
Donc on écoute ça puis on revient dans quelques instants.
And so, we walked away. I'm sorry?
You're under arrest.
Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir?
Why am I under arrest, sir?
Officers with the CNN and he's on the air right now.
Okay.
You are arresting him live on CNN. We told you before that we are with CNN.
Our CNN camera crew and our producer are being arrested right now on live television in handcuffs.
I've never seen anything like this.
Why, guys, why, what is...
Allison.
Why are you arresting us? We're just passing along the message, your message. I'm done. Well, you know, we're just out here doing our job as well as you are.
We can do that.
You tell me what? What are
you under arrest?
Okay.
Behind your back.
I'm being arrested now. Can I put the camera down?
Filmé. J'adhère à ton point, Luc, que la police est comme le dernier jalon là, qui se ramasse près des problèmes qui ne sont pas réglés. Mais comme mon collègue Mario Dumont le faisait valoir ce matin sur les ondes de Cube Radio, quand une police qui a déjà sa crédibilité qui est mise à mal, qui s'en va arrêter une équipe qui clairement, on le voit, le segment complet dure 6 minutes, ils disent, ben ok, mais vous voulez qu'on déplacez-nous où on peut aller, puis pour seule réponse, ils se font arrêter, c'est rien pour aider la crédibilité d'un corps de police. Là.
Voilà, et carrément, pour être... Hein, je disais, c'est toujours important de faire les nuances, mais la police à Minneapolis l'a échappé. On l'a échappé avec le noir en procédant son arrestation. Et clairement, on l'a échappé ce matin en gérant les médias. Puis regardons comment on gère aussi l'ensemble de la situation pour que ça dégénère autant. Assurément, il y a tout un examen à faire du service de police. Mais je répète, c'est qu'en même temps, oui, ils doivent être prêts. Ça fait partie de leur responsabilité. Mais on les place souvent dans des positions qui sont absolument impossibles. Et moi, je me souviens qu'il y a un chef de police à Dallas qui avait dit exactement la même chose. Écoutez, il y avait eu un incident qui était dans les mêmes eaux autour qui impliquait la question raciale. C'est un chef de police noir qui était là à l'époque. Puis grosso modo, ce qu'il dit, c'est vous me demandez de faire la job des politiciens, vous me demandez de faire la job d'un planificateur, d'un créateur d'emploi ou de celui qui gère les programmes sociaux. Malgré nos formations, nous ne sommes que des policiers. Et ils sont formés, les policiers. C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas tellement longtemps, mais est-ce qu'ils sont formés? Bien sûr que oui. Et entre autres, pour les relations avec les minorités, la communauté noire en particulier. Donc, je disais, la problématique de la question raciale, elle est éminemment complexe. Elle a des ramifications. Ça fait 25 ans que j'enseigne l'histoire américaine. Et à chaque année, malheureusement, Jonathan, je commente, j'explique ou je fais l'historique de ça devant mes étudiants en leur disant, il y a une chose qui bouge pas assez. L'action et pas juste celle des politiciens. Et je répète, on dénonce la brutalité policière et elle existe. Mais est-ce qu'on cherche à endiguer les autres maux, les autres problèmes? Trop souvent, on balaye ça sur le tapis où ça demeure une promesse d'un élu, peu importe le niveau, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau fédéral. Mmh. Et ça va rejoindre la campagne électorale, c'est certain. Par exemple, depuis hier, il y a un nom qui est à peu près disparu du radar pour ce qui est de la colistière de Joe Biden, et c'est Amy Klobuchar. Elle a été procureure, elle, dans une autre vie, avant de se lancer en politique, et elle était confrontée à des épisodes de brutalité raciale, et elle n'a jamais jugé bon, comme procureure, de poursuivre les gens. Donc, qu'elle a eu raison ou tort dans ces dossiers-là, parce qu'il faudrait refaire l'historique, elle a refusé de bouger dans des incidents qui impliquaient des policiers blancs avec la communauté noire. Est-ce que Joe Biden veut aller chercher une femme du Midwest, à ce moment-ci, qui a été mêlée à ce dossier-là? Ouf. Moi, je pense qu'on vient d'éliminer le nom de Mme Klobuchar depuis hier, là, depuis deux jours. Je pense que Mme Klobuchar a baissé les bras puis qu'elle ne cherche plus à être nommée comme okay. Politicien.
Avançons un peu dans notre analyse parce qu'on doit parler absolument de la réaction du président américain. Le but, c'est pas de s'acharner sur lui, mais dans une période aussi sensible que celle-là, alors que déjà en parallèle, il y a une pandémie, il y a des morts, les États-Unis qui franchissent le cap des 100 000 décès, on s'attendrait à ce qu'un homme d'État soit capable de dire, regardez, je vais agir en médiateur, on va essayer de calmer les gens. Or, ce que Donald Trump semble avoir fait dans les dernières heures, c'est carrément de jeter de l'huile sur le feu, là.
Écoute, j'ai un billet de blog qui est en ligne depuis quelques minutes et le titre est bien simple, c'est Donald Trump, le troll en chef. il se comporte comme les pires individus. Tout le monde sait ce qu'est un troll, puis dans les médias, bon, on compose avec ça régulièrement, mm-hmm. peu importe dans quelle fonction on joue comme journaliste, commentateur, analyste, animateur. Les trolls sont là pour susciter de la controverse, pour provoquer, pour choquer, pour diviser. C'est exactement ce que fait le président. Et cette semaine, moi, je pense qu'il s'est lancé à l'attaque contre Twitter pour faire diversion. Parce que, bien entendu, le bilan de son administration par rapport à la pandémie, il est très critiqué et il est loin de faire l'unanimité. Mais ce qui, au départ, était un test pour Twitter, hein, est-ce qu'on laisse le président mentir? Est-ce qu'on laisse le président accuser un animateur de télévision, Joe Scarborough, de meurtre, carrément?
Ben oui.
Donc, est-ce qu'on a le droit à la liberté d'expression? C'est à définir sur les réseaux sociaux. Puis, normalement, il y en a une définition et il y a des règles. Est-ce qu'elle s'applique au président? Toi et moi, on ne peut pas dire en ondes ou quand on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, est-ce que ça s'applique au président américain? Et cette nuit, il en a rajouté une couche. Et cette fois-là, Twitter, qui avait longtemps tardé à agir, puis je pense avec raison, la liberté d'expression, c'est complexe à définir dans certains cas, mais là, ce qu'il a carrément dit, il a récupéré une phrase de 1967 du maire de Miami. Cette phrase-là avait initié des émeutes raciales. Il la récupère pour parler du Minnesota en disant, grosso modo, quand le pillage commence, nous, on ouvre le feu. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est carrément une incitation à la violence. Plutôt que d'avoir des propos, c'est difficile d'être rassembleur à ce moment-là, mais le président peut dire, écoutez, la situation est dégénérée, on offre l'appui des troupes fédérales, je serai en soutien au gouverneur puis au maire. En fait, il les a attaqués tous les deux, particulièrement le maire démocrate de la ville qu'il trouve être faible dans les circonstances. Mais plutôt que de dire, on va être là en soutien puis d'appeler au calme, il jette effectivement de l'huile sur le feu en appelant à la haine. Et moi, c'est là où je dis, le président se comporte comme le pire des trolls, et il y en a beaucoup de ces trolls qui l'ont appuyé. C'est toujours regrettable à dire, c'est pas tous ses partisans qui le sont, mais il y a des trolls, il a lui-même pigé un certain nombre de théories auprès de ses trolls, et il les relaie avec son compte Twitter et sur Facebook. Et moi, je pense qu'on a depuis longtemps dépassé les limites, et c'était le cas cette nuit.
Et là, il faut absolument souligner ce que Twitter a fait, parce que, bon, ce tweet-là a été publié à minuit 53. Non, ouais. Donald Trump faisait pas du drunk tweeting, il prend pas d'alcool, c'est su, c'est juste lui à son naturel. Et si on a tellement parlé du fait que Twitter avait étiqueté, épinglé un de ses tweets comme étant là susceptible de véhiculer des fausses nouvelles, ils ont étiqueté ce gazouillis-là, et c'est 10 fois plus lourd, là. Et je vais le traduire en français, là, pour nos auditeurs. L'étiquette dit, ce tweet viole les règles de Twitter concernant la glorification de la violence.
Voilà.
Cependant, nous avons déterminé qu'il pouvait être d'intérêt public de le laisser accessible, mais on vous avertit que on n'est pas d'accord avec ça, dans le fond. C'est le président des États-Unis, Twitter, dit, ce tweet-là glorifie la violence. Ouais. Wow!
Et écoute, est-ce que quelqu'un peut remettre ça en question? Honnêtement, là, il faut vraiment être un partisan de Donald Trump, mais totalement aveuglé par la partisanerie, pour nier la portée dangereuse de ce tweet-là. Donc, il y a bien sûr, et ça, c'est les électeurs qui vont se prononcer, au mois de novembre prochain, est-ce qu'on veut de cet individu-là comme président encore? Ben là, bien sûr, on laisse la démocratie parler. Il y a personne qui a dit que Donald Trump n'était pas un président légitime depuis 3 ans et demi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Laissons les Américains décider. Moi, ce que j'ai hâte de voir maintenant, ben, c'est qu'il y a un système de justice et il y a de la réglementation sur les plateformes web, puis on les apostrophe souvent, les responsables du web, pour la désinformation, hein, pour profiter d'un certain nombre de nouvelles faites par des journalistes, mais eux le font sans avoir à investir dans la recherche, etc. Il y a un certain nombre de controverses autour de ces géants-là, et Twitter se décide à bouger. Et j'ai pas pu faire autrement que de rire cette semaine quand Donald Trump a dit que les Twitter limitaient la liberté d'expression. Je me souviens pas d'un chef d'État qui a fait uniquement sa réputation sur Twitter, qui a été élu en bonne partie grâce à l'appui et à la diffusion de messages sur Twitter. Toi et moi, on aurait été bloqués bien avant les interventions que Twitter a fait. Pendant longtemps, puis c'est un peu ce qu'ils ont fait cette nuit. Ils ont dit, on l'étiquette, mais on laisse parce que c'est le président, puis que le compte Twitter du président, c'est un forum public. Ça avait été décidé, ça, par un tribunal, hein, c'était aller devant les tribunaux, ben on le laisse là, mais on fait quand même une mention. Donc, il a quand même un traitement de faveur, le président des États-Unis. Toi et moi, on aurait été bannis ou on aurait retiré le tweet, ou n'importe quel Américain, ça se déroule aux États-Unis. Donc, il y a quand même une forme de traitement de faveur dans ce cas-ci. Le président américain peut se permettre de faire ça.
OK. Rapidement, là, je veux qu'on parle du fameux décret qui a été adopté hier. Je dis rapidement parce que je nous ai gardé une cerise pour le Sunday pour terminer ta chronique. Mais le fameux décret adopté hier, est-ce qu'il a une portée réelle? Est-ce que ça peut effectivement mettre en danger l'avenir de Twitter ou c'est plus symbolique? Si on avait le résumé, là.
Non, je ne pense pas qu'on mette en danger Twitter. Moi, je pense que c'est une nouvelle fois de plus une occasion, parce qu'au-delà de la réaction à chaud, là, puis parfois c'est très émotif, faut mettre ça en perspective puis voir finalement tout ce que le président Trump nous offre comme possibilité de réfléchir à la portée du pouvoir présidentiel. Le président américain ne peut pas dire Twitter, c'est fini demain. Il peut donner des consignes, puis le ministre de la Justice ou le procureur général peut intervenir, on peut faire des enquêtes, on peut, mais Twitter, là, vendez pas vos actions si vous en avez, ça va probablement être encore là. Mais on aura le droit à un beau bras de fer devant les tribunaux. Moi, je pense que c'était un geste d'éclat, comme le président aime souvent le faire, puis il s'est, comme d'autres avant lui, là, mais il a exploité au maximum ou étiré au maximum la définition des pouvoirs de l'exécutif, et c'est une nouvelle manifestation de ça. Donc, c'est très spectaculaire comme déclaration. Twitter continue ses activités. Je pense pas que M. Dorsey, le président de Twitter, s'il a pas dormi, c'était pour gérer le tweet, moins que la menace qui pèse sur son réseau. Donc, on verra le résultat de tout ça. Parce que moi, je rappelle souvent, il y aura éventuellement un autre président ou une autre présidente après Trump. Et ils devront vivre avec tout ce qu'on aura décidé au sujet de la présidence Trump, et il y en a combien de causes devant les tribunaux, il y en a encore d'ailleurs, hein, qui sont pas réglées. Donc, autour justement de l'exercice du pouvoir présidentiel puis de l'immunité présidentielle. Donc, moi, je reste au poste. Ce que je veux voir, c'est correct, il y a le phénomène Trump, on le commente. Moi, je veux savoir ce qui va rester de la présidence après puis des pouvoirs du président.
Dernier truc que je voulais qu'on aborde ensemble, je dis que c'est un peu la cerise sur le Sunday, parce que, bon, on en parle de semaine en semaine, toi et moi, de voir quels seront les messages, les axes de communication des différents candidats, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump. Mais sur la définition du candidat, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence entre comment on voulait présenter Donald Trump officiellement, essayer de le montrer, là, tu sais, vraiment un chef d'État, pis tout ça, mais que, bon, dans les faits, on le voyait en conférence de presse ou sur les médias sociaux, que il est ce qu'il est, il brasse la cage et tout ça. Et là, hier, on a vu apparaître sur Twitter, justement, une publicité vantant Donald Trump, vantant sa gestion de la crise, de la pandémie, ce qui est déjà quand même assez particulier avec 100 000 morts, mais pour la première fois, j'ai trouvé qu'on définissait vraiment Donald Trump pour ce qu'il était. C'est quelqu'un qui brasse, puis qui jette les conventions et tout ça, et je trouve que c'est très drôle à entendre. On va écouter donc l'audio de cette publicité qui a été mise en ligne hier.
A bull in a china shop, changing Washington. It takes a Donald Trump to demand truth from China. Shut down foreign travel. Get ventilators and tests now. Raise unemployment benefits. Cash relief to families. Washington's come to that. President Trump's not always polite. Mr. Nice Guy won't cut it. He does it his way, not the Washington way. But Donald Trump gets it done.
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Je trouve ça vraiment intéressant. Wow. Il n'est pas toujours poli, c'est pas Mr. Nice Guy, mais il n'est pas Washington. J'avais l'impression que c'est la première fois qu'on table vraiment sur ces caractéristiques-là de Donald Trump pour le différencier, pour dire c'est lui que ça nous prend, là.
Et c'est la carte qu'il faut jouer. On l'assume. Donald Trump, lui, s'est présenté comme ça. Hein? Si on se rappelle là, de la descente de l'escalier roulant en 2015, quand il officialise sa candidature, c'est un peu ça. Moi, je défie les conventions. Puis regarde, par exemple, on sait, c'est parce que ça rejoint des gens dans toutes sortes de sphères. Là. Regarde en termes de sport. Hein? Des fois, on dit, ben oui, ce joueur-là, il est poli, il s'exprime bien, mais quand vient le temps de se mettre le nez devant le filet ou aller chercher le puck dans le coin, ben ça prend un tough. Et c'est un peu comme ça que Donald Trump se présente. Je jouerai pas, je gagnerai pas le Lady Bing cette année, moi, mais je vais aller dans le coin où je vais être devant le net, dans le trafic. Donc, effectivement, Donald Trump, le Lady Bing, il ne le viserait pas. Donc, il n'est pas reconnu pour son esprit sportif, mais grosso modo, il dit, regardez pas comment je le fais, mais je vais livrer la marchandise. Et je pense que c'est une façon habile de le vendre.
Absolument, absolument. Mais c'est très intéressant à voir ça en plus avec les images, là, la réalisation qui est très an American hero dans longtemps. Alors voilà, on va suivre ça en espérant que la situation se calme un peu là, du côté de Minneapolis. Et on fait le point ensemble en début de semaine. Je te souhaite un excellent week-end, Luc.
Un bon week-end à vous deux. Bye, Jonathan. Salut.